édit par le père Philippe à Saint-Judard le 17 janvier 90.
Continuons cette réflexion sur l'éthique religieuse. Voir les conditions nécessaires pour que nous passions de la responsabilité à l'égard de nous-mêmes. Beaucoup plus radicale qui consiste à adorer. Alors je vous disais la dernière fois que l'éthique religieuse ou s'appuyer sur les traditions religieuses, on a des exemples très nets. Dieu créateur. reviens sur un point, parce qu'on m'a demandé d'y revenir. Comment la métaphysique peut critiquer les traditions religieuses? Et comment elle ne peut pas critiquer la foi divine? Qui est un point, je crois, important. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais ça, ça n'a pas d'importance. C'est pas un suffrage universel, la vérité. C'est de pouvoir comprendre que ça ne peut pas être autrement, puis c'est tout. Si mon intelligence peut découvrir l'existence d'un être premier, qui est le Créateur, à ce moment-là, je peux contempler cet être premier que nous appelons Dieu. Et découvrir le caractère particulier de cette relation qui existe entre Dieu et moi-même. Et par le fait même, je peux critiquer tout ce qu'il peut y avoir d'erroné dans certaines traditions religieuses. Je prends le code Épictète. Ce que je vous disais tout à l'heure. Épictète considère que la proie iris, le choix libre, qui définit mon intériorité dans ce qu'elle a de plus, mon intériorité dans ce qu'elle a de plus forte, est quelque chose d'absolu.
Pourrait pas
À ce moment-là, toutes les quantités de données traditionnelles, religieuses, dégringolent. Et je suis dans un dialogue beaucoup plus personnel entre Dieu et moi. Il n'y a plus cet intermédiaire très classique dans les traditions religieuses entre moi, Dieu et l'univers. Comme si l'univers, voyez, était un intermédiaire entre Dieu et moi. Alors ça fait tomber immédiatement ce qu'on appelle la destinée, la moïra, naître un jour favorable, naître un jour défavorable. Et ça joue beaucoup, ça. Est-ce que vous êtes né sous une bonne planète? Si vous êtes né sous une mauvaise planète, pauvre type, jusqu'à la fin de vos jours, ça vous poursuivra. Ça, vous voyez, c'est une éthique religieuse qui ne va pas jusqu'au bout, qui maintient certains aspects. respecter la révélation est contraire à la philosophie. Ne pas respecter le mystère de l'incarnation et de la rédemption comme une réalité possible, c'est contraire à la philosophie. Il faut aller jusque-là. Autrement dit, il faut attaquer ce que Merleau-Ponty dit dans son grand discours au Collège de France, que le mystère de l'incarnation est contraire à la connaissance que je puis avoir de Dieu. Il faudrait lire ça ensemble. Ça vaut la peine. C'est un beau discours. Parce que quand Merleau-Ponty a été nommé au Collège de France, il y a eu toute une série d'oppositions en disant c'est impossible de nommer au Collège de France quelqu'un qui est athée. Mais c'était la réaction de ce temps-là. Aujourd'hui, ce serait complètement dépassé. Mais à ce moment-là, on l'a dit. Et Merleau-Ponty a répondu. On a traité Socrate d'athée. Et on me traite d'athée alors que je ne le suis pas. Au contraire, je défends la grandeur et la transcendance de Dieu en disant que l'incarnation n'est pas possible. Autrement dit, je défends un Dieu absolument intérieur, d'une intériorité absolue. Et en faisant ça, je défends la pureté même de Dieu. Mais c'est intéressant comme position, parce que c'est une position métaphysique qui veut aller jusqu'au bout de la limpidité de la connaissance que l'homme peut avoir de Dieu. Mais elle n'est pas juste, parce que là, il met une mesure à la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que Merleau-Ponty n'a pas saisi. Au moins dans ses écrits, intérieurement, je n'en sais rien. Mais dans ses écrits, il dit ça. Le mystère de l'incarnation, le métaphysicien peut dire, c'est possible parce que Dieu est infiniment bon. Et c'est la bonté de Dieu qui peut seule montrer que l'incarnation et la rédemption peuvent exister. Donc vous voyez, vous êtes très attentif à ça. C'est pas de l'apologétique, ça. L'apologétique dirait, il est nécessaire qu'il y ait l'incarnation et la rédemption. Tandis que le point de vue métaphysique dit, il est possible que... C'est pas la même chose. Hein. Et vous êtes très attentif. Il ne faut pas retomber dans des apologétiques. Il faut au contraire avoir un regard métaphysique très pur. Alors là, oui, et y aller à fond. Je vois un petit exemple, parce que c'est arrivé lundi soir avec la conférence. C'est toujours intéressant ces choses-là. On parlait de la mort. Et on m'avait demandé de montrer la mort dans le regard du philosophe et du théologien. Alors, après avoir montré comment la mort restait un mystère pour le philosophe, un mystère qui le scandalise, un mystère devant lequel il ne peut rien dire, et de dépasser ce scandale. Un scandale de l'intelligence. La mort est un scandale pour l'intelligence du philosophe. Ça, faut le maintenir. Et il ne peut rien comprendre. Donc, il doit se taire. Et que seul le théologien montre que la mort est une peine. Dieu n'a pas inventé la mort pour elle-même. Mais Dieu immédiatement. C'est un chrétien, pourtant. Ils ne peuvent pas accepter. Alors j'ai dit, alors comment expliquez-vous la mort au plan théologique et au plan philosophique? Il m'a dit, la mort, c'est la rencontre avec le Créateur. Vous voyez, le vieux platonisme par derrière. La mort est la libération de l'âme. Et alors il allait jusqu'à dire, la mort, c'est les épousailles de l'âme avec le Créateur. Alors j'ai dit, drôle d'épousailles. C'est vrai. Et alors, j'ai ajouté, parce que je crois que c'est juste, l'acte créateur de Dieu ne peut pas expliquer la mort. Immédiatement, on est revenu sur le problème du père Garrig. Dieu n'a pas d'idée du mal. On voit très bien comment tout ça se tient. C'est ça qui est intéressant, du reste. C'est vrai que Dieu, créateur, n'a pas d'idée de la mort et du mal. Mais le Dieu Père, dans le mystère de la rédemption, lui, il a un sens du mal, puisqu'il punit, le père punit, il châtie ses enfants par amour pour les corriger. Et la mort est une peine voulue par Dieu. Or, la mort est un mal. Donc dire que Dieu n'a pas d'idée du mal, distingué comme créateur, mais pas comme père. Point de vue surnaturel. Il faut bien distinguer les deux, c'est capital. Le mystère de la création n'explique pas la mort. Dieu comme créateur ne veut pas la mort. Mais Dieu comme père qui nous conduit à la vision béatifique se sert de la mort comme d'un moyen pour purifier notre orgueil. Pour montrer dans le Christ la victoire de l'amour sur la mort. Vous voyez, c'est très intéressant ça, parce que ça nous aide à comprendre comment, si vous arrivez à poser au plan métaphysique le Dieu créateur, vous pouvez tout de suite poser que le Dieu créateur n'explique pas le mal. Il explique les limites. Mais un mal qui touche la personne dans ce qu'elle a de fondamental, vous ne pouvez pas. Vous restez devant une interrogation. Et donc, le scandale demeure. Le scandale en soi n'est pas mauvais. Hein. N'oubliez jamais ça. C'est la réaction affective en face du scandale qui est bonne ou mauvaise. Quand le scandale conduit à la révolte contre Dieu, c'est mauvais. Quand le scandale conduit à la remise totale entre les mains de Dieu, c'est bon. Mais être scandalisé n'est pas mauvais. Un novice scandalisé devant un père qui dit certaines choses qui ne sont pas selon l'esprit de la congrégation dans laquelle il est. Ce scandale n'est pas mauvais. Il est même bon. Ça prouve qu'on vit. Ceux qui ne vivent pas assez ne sont jamais scandalisés. Ils laissent tout passer. Il faut réfléchir sur ce que c'est que le scandale. Le scandale qui est la pierre qui risque de faire tomber parce qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse. Le scandale, c'est l'intelligence qui est en face d'un fait qu'elle ne peut pas expliquer. Quand je suis en face d'un fait qui me touche et que je ne peux pas expliquer. Je suis scandalisé. C'est le rouleau compresseur. C'est ça le scandale. Le scandale est du côté de l'intelligence. C'est l'intelligence qui est scandalisée. Alors, de là, il y a la conduite après, affective. Donc, saisissons bien cette position de l'éthique religieuse. La référence de l'homme à Dieu au plan des traditions religieuses, au plan de la connaissance en théologie naturelle que j'ai de Dieu. L'éthique religieuse nous montre un développement nouveau de l'acte humain volontaire. Alors, c'est cela que je voudrais tout de suite montrer avec vous. Qu'est-ce qui caractérise l'éthique religieuse? Ce qui caractérise l'éthique religieuse, c'est que face à l'existence du Dieu créateur, je puis ou accepter cette dépendance radicale à l'égard du Dieu créateur, ou au contraire, je puis me révolter. Ceci en fonction de circonstances très variées. Ce que Rostand disait constamment, j'ai une peine énorme d'accepter l'existence d'un Dieu créateur bon à cause du mal qui existe, à cause de la souffrance qui existe. Rostand rejoignait ce que saint Thomas dit à propos des voies d'accès vis-à-vis de Dieu, que c'est l'existence du mal qui est l'obstacle le plus grand pour affirmer l'existence d'un Dieu créateur, pour accepter l'existence d'un Dieu bon. C'est ce que Maritain, à sa manière aussi, réaffirme quand il parle des idéologies athées, en montrant que c'est l'existence de la souffrance, et une souffrance qui se généralise, qui est la chose la plus difficile à dépasser. Dans notre monde d'aujourd'hui, où le mal est propagé d'une manière souvent exagérée, on aime de scandaliser. Ça fait partie de la mentalité d'aujourd'hui. Les médias aiment de propager toutes les choses odieuses. On montrera un prêtre infidèle, un prêtre qui n'est pas fidèle à ce qu'il a promis. On montrera jamais le petit curé de campagne qui prie. Ça, jamais, ça passe. Ça ne passe pas à la télévision. Il y a un filtre. Ce sera intéressant d'étudier le filtre. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce qui passe? C'est le mal. À scandaliser, ça va. Les pires scandales. Ça va très bien. On aime de scandaliser. C'est très curieux, du reste. Il faut chercher pourquoi. Alors, si vous propagez le mal par la télévision, et c'est évident, les événements qu'on a vécus faisaient une proie merveilleuse pour la télévision. C'est extraordinaire de montrer un tyran et de montrer tout ce qu'il a fait et de propager ça après sa mort. Montrer ça, c'est merveilleux. Ça scandalise. On aime de scandaliser. Alors, vous voyez tout de suite. Voilà le problème de l'éthique religieuse. En face du scandale, je dis non, Dieu ne peut pas exister. En face suis entre ses mains, totalement dépendant de lui. J'accepte cette dépendance. Je l'aime. J'adore. Vous avez là vraiment une dimension nouvelle de l'éthique. Vous voyez, si j'étais obligé d'adorer, ce ne serait plus l'éthique. Mais j'adore librement. Et librement, je refuse d'affirmer l'existence de Dieu à cause du scandale. Puisqu'il y a éthique lorsqu'il y a un acte volontaire, lorsqu'il y a un nouvel amour. Et ce nouvel amour, je peux l'accepter ou le refuser. La liberté vient après l'amour. Mais dès qu'il y a un nouvel amour, il y a un nouvel acte de liberté possible. Et donc, il y a une dimension nouvelle de l'éthique qui est tout à fait irréductible à ce qu'avait l'éthique au niveau de l'amitié humaine. Au niveau de l'amitié humaine, nous avons vu qu'il y avait vraiment un amour à l'égard de la personne humaine, autre que moi, que je considère comme mon bien, ou que je considère comme ce qui vient me limiter dans ma liberté. L'autre peut être accepté comme ce qui suscite en moi un amour. L'autre peut être rejeté comme l'enfer. Si je considère que l'autre, c'est l'enfer, il n'y a plus d'éthique. Si on considère l'autre comme celui qui peut m'attirer et susciter en moi un amour, il y a une éthique de l'amour d'amitié. Le problème de l'existence de Dieu, de l'existence du Créateur, la découverte de l'existence du Créateur, ou au contraire, le refus de l'existence du Créateur, me met en présence d'une possibilité d'une éthique religieuse, ou au contraire, le rejet de l'éthique religieuse. C'est le problème d'aujourd'hui. Avec beaucoup d'acuité. C'est le problème de toutes les idéologies athées. Et c'est le problème pour moi personnellement d'accepter que l'éthique, donc ma responsabilité, dépasse le point de vue humain de l'amour d'amitié et va beaucoup plus loin. Je crois qu'il faut bien saisir le moment précis de cette naissance de l'éthique religieuse. Parce que si je ne saisis pas ça, je ne saisis pas ce que c'est que l'éthique religieuse dans toute sa pureté. Donc l'éthique religieuse se noue autour de cet amour naturel, humain, volontaire, à l'égard du Créateur. Au contraire, le refus de l'existence de ce Créateur. Et alors, à ce moment-là, je considère que c'est l'homme qui est souverainement libre et qui peut orienter sa vie uniquement en respectant l'homme, en l'aimant, ou au contraire, en le refusant. L'éthique religieuse naît à partir de ce moment-là. Et je vois que cette éthique religieuse qui naît à partir de ce moment-là implique aussi l'autre aspect de la négation de cette éthique religieuse. C'est très important parce que là, on voit mieux la liberté qui est au cœur de l'éthique religieuse. intéressant à creuser. Il n'y a pas d'athéisme purement spéculatif, ce que je crois. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre position intermédiaire plus hypocrite qui est de l'indifférence?
Mais l'indifférence est encore une attitude morale. Et l'indifférence repose toujours en définitive sur l'hypocrite. Parce que l'indifférence, vous comprenez, n'est pas une position absolue. Vous n'avez pas le droit d'être indifférent si tu existes. Oui, donc l'indifférence est une attitude modératrice. Je suis indifférent. Laissez-moi tranquille. En réalité, il faut creuser jusqu'au bout. Et je crois que il y a cette attitude éthique fondamentale de celui qui a peur de l'existence de Dieu. D'où l'hypocrisie. Scientifique, mais justement pas philosophique. Le hasard, c'est pas une position.
Ça reste
spéculatif. Quoi?
Ça reste spéculatif.
En réalité, c'est du bokeh, le hasard. Dès que le hasard est une position philosophique, c'est pas une position scientifique. Parce que le hasard, c'est la négation de finalité. Oui. Alors mono reste dans une position qui n'en est pas une. Se réfugier dans le hasard. Parce que le hasard est une position philosophique. Et le hasard, position philosophique, repose sur le fait « je ne veux pas trancher ». Donc l'hypocrisie du sceptique. De gauche. D'où est né l'athéisme? Oui. se réfugie dans le primat de l'idée. Et donc il y a une peur du réel. Et cette peur du réel, c'est parce qu'en définitive, le réel conduit à Dieu. Conduit à une réalité première. D'où cette attitude affective de repliement. Ce repliement prend des modalités très diverses, point de vue affectif. Alors il faudrait ajouter à ça que, de fait, le refus de l'existence de Dieu implique affectivement le plus terrible des repliements, qui est justement de refuser le lien avec Dieu. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui, prouvé, c'est montré au point de vue psychologique que le repliement le plus terrible, donc ce qui est source de l'inconscient, c'est ce refoulement religieux. Ce refoulement religieux est le refoulement le plus radical qui soit, qui conduit de fait le monde à un suicide collectif. Je crois. Et ça, c'est important à noter au point de vue philosophique. Vous voyez ? Parce que ça montre que la position de l'athéisme n'est pas une position humaine. Il y a un refus affectif. Et ce refus affectif conduit nécessairement à une position.